Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a désormais trois souveraines en Belgique. Mathilde, la reine des Belges, épouse du roi Philippe. La reine Paola, épouse du roi Albert II, qui vient d'abdiquer en juillet dernier. Et puis la reine Fabiola, veuve du roi Baudouin depuis plus de 20 ans. C'est de cette dernière que Franck Ferrand aimerait nous parler aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Doña Fabiola de Mora y Aragón, fille d'un grand d'Espagne, le marquis de Casariera, était devenue la reine des Belges en 1960, lorsqu'elle a épousé le roi Baudouin, lui-même monté sur le trône de Belgique 9 ans plus tôt à l'abdication de son père, le très controversé Léopold III. Ce devait être pour elle le début de 33 années de règne jusqu'au décès de son mari en juillet 1993. 33 années dont je vous propose de revivre cet après-midi toutes les péripéties, il y en a eu un certain nombre, en compagnie du biographe de la reine, Philippe Séguy.
Et n'oubliez pas les questions de nos auditrices, hein, Sophie et Violaine.
Eh oui, j'aurais garde de les oublier, Saint-Valentin oblige. Sophie nous demande quelles sont les origines de cette fête des amoureux. Quant à Violaine, elle va un peu plus loin. C'est le fameux French Kiss qui l'intrigue. Eh bien, nous voilà bien.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il existe des liens profonds depuis bien des siècles entre l'Espagne et ses Flandres, qui longtemps ont été les Pays-Bas espagnols. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une alliance, d'une union entre un jeune homme belge et une jeune femme espagnole, sachant que le premier était tout de même le roi de son pays et la seconde une demoiselle de haut lignage. C'est un peu un conte de fées dont il s'agit, avec ses beautés et ses aspects cruels, un conte de fées très moderne en vérité. Voici donc des jeunes gens qui s'aiment d'un amour très pur depuis leur première rencontre qui a eu lieu en 1957. Ils se sont mariés donc en 1960 et dès lors pendant 8 ans, ils ne vont attendre qu'une chose, le couronnement de leur union, un enfant. Et voilà qu'en juin 1961, le couple royal est en visite à Rome, chez le pape, et l'on apprend que la reine aurait fait un malaise et qu'elle serait, vous connaissez la formule diplomatique, en position avantageuse. Voici ce qu'on pouvait entendre sur l'antenne d'Europe numéro 1 le 8 juin 1961. C'était Fernand Choisel qui parlait.
On apprend à l'instant, nouvelle confirmée par le bulletin officiel de l'Osservatore Romano, l'organe du Vatican, que Sa Majesté la Reine de Belgique Fabiola se trouve dans une condition particulière. Telle est la phrase employée dans le paragraphe 658 du bulletin édité cet après-midi. De fait, Sa Majesté le roi Baudouin a franchi la cour de Saint-Damas pour y passer en revue les gardes suisses et une compagnie de la gendarmerie vaticane, tandis que Sa Majesté la Reine attendait dans un petit salon attenant l'entrée des ascenseurs. Le roi rejoignit la reine Fabiola et au lieu de monter l'escalier traditionnel, ils empruntèrent le petit ascenseur assez inconfortable et désuet. Cet après-midi, la reine s'est reposée dans l'ambassade de Belgique. Elle n'a pas participé à la visite de la chapelle Sixtine. À Rome, on ne parle que de l'heureux événement qui sera, selon toute vraisemblance, annoncé très prochainement, officiellement, par la cour de Belgique. Ici John Pazetti qui vous a parlé de Rome, Europe numéro 1.
Europe numéro 1 est en train, sans le savoir, par la voix de Fernand Choisel, de faire une véritable gaffe. Cela dit, Radio Monte Carlo en fait autant le même jour et toutes les radios d'Europe vont bientôt en faire autant. Et on peut dire qu'à l'origine de la gaffe elle-même, il y a le pape Jean XXIII en personne qui parle ou qui laisse parler de cet heureux événement. Ça, c'est terrible parce qu'ils avaient bien l'intention, les jeunes mariés, bien entendu, de garder ça le plus longtemps possible secret. Oui, maintenant, il faut bien l'admettre, la reine Fabiola est enceinte de quelques mois. L'enfant serait attendu pour le mois d'octobre. La vérité, c'est que cette rumeur courait déjà dans les rédactions depuis quelques semaines. On ne parlait même que de cela à voix basse lors du voyage officiel du couple royal à Paris, au moment où Baudouin et Fabiola sont reçus par le général et Madame de Gaulle. Tout le monde voyait bien que la reine était plus heureuse encore que d'habitude. d'habitude. Elle avait l'air rayonnante, le roi ne cesse de l'entourer d'attention spéciale. Et puis, il y a eu ce malaise au cours de la soirée de gala donnée en l'honneur des souverains belges à l'Opéra de Paris. Voici ce qu'écrivent Philippe Séguy et Antoine Michelan dans leur biographie de Fabiola sous-titrée « La Reine Blanche ». À l'Opéra, Fabiola est prise d'étourdissement. En toute hâte, Baudouin la prend dans ses bras et l'entraîne aussitôt vers une banquette isolée. Le roi demande à rester seul avec sa femme quelques instants, la tête légèrement rejetée en arrière, le célèbre diadème de la reine Astrid glissant un peu de ses cheveux, la reine rassure d'un sourire son époux. En réponse, Fabiola reçoit un autre sourire, gage d'un secret partagé à deux, la reine des Belges est enceinte et le lendemain, Fabiola sera officiellement annoncée comme souffrante sans autre précision. Les journalistes ne cessent de se poser des questions, bien entendu. Le diagnostic officiel avait conclu à des coliques néphrétiques, ça permettait de gagner un peu de temps. Donc, quelques jours après, quand je dis quelques jours, deux jours après, au cours de ce voyage à Rome et de cette audience avec le pape Jean XXIII et de cette annonce intempestive des organes officiels du Vatican, gaffe, une des plus grosses gaffes de l'histoire moderne du Saint-Siège, le saint un père, comme l'écrit le journal belge Pan, eh bien cette fois, les choses sont officielles. Le pape d'abord, la nation ensuite, enrage le journaliste et homme politique Fernand de Magny. Et oui, ça paraît bizarre que l'annonce ait été faite au pape avant d'avoir été faite aux Belges eux-mêmes. Mais il y a une bonne raison, évidemment, pour cela, c'est que le couple royal avait l'intention de s'entretenir tout à fait en privé avec le Saint-Père de cet heureux événement attendu. Il ne faut pas oublier la dimension très catholique de ce couple, sur lequel un aspect très religieux sur lequel on va avoir l'occasion de revenir un certain nombre de fois au cours de cette émission. Alors, le 10 juin, c'est le Premier ministre de Belgique, Théo Lefèvre, qui est obligé de faire la déclaration suivante. Il est exact que le roi et la reine ont confié au pape leurs espérances d'une naissance possible. Il est naturel et de tradition que l'annonce au peuple belge en tout premier lieu d'un heureux événement soit faite en toute certitude. Vous voyez comment on s'abrite derrière la simple probabilité. Je crois, ajoute le Premier ministre, être l'interprète du pays en formant des vœux pour ce qui est aujourd'hui plus qu'une espérance et que ça puisse bientôt être confirmé dans la joie de tous. Messieurs, il est tellement vrai que le caractère de la communication au pape était confidentiel que Sa Majesté le Roi me l'avait confié sous le sceau du secret le plus absolu avant d'entrer chez le pape. J'avais estimé que dans ces conditions de secret, aucune confirmation ne pouvait être encore formulée. Je pense qu'aujourd'hui, aucun service de communication ne se permettrait d'accumuler ainsi les mensonges diplomatiques. Vous avez vu à quel point cette phrase est alambiquée, laisse entendre toutes sortes. On veut faire croire a posteriori que toutes les formes avaient été respectées. Évidemment, il n'en a rien été. Le chef du gouvernement ne précise pas dans l'allocution officielle qu'il va faire au peuple belge un élément essentiel. Il est de tradition dans la famille de Fabiola de confier très tôt à l'Église les espérances qu'une future mère peut avoir. N'oubliez pas qu'elle est espagnole. Ça aurait peut-être été un peu plus franc et ça aurait fourni une explication sans doute plus plausible. Bref, à Rome, Fabiola s'est sentie fatiguée. Elle a pris peur, elle a voulu recevoir la bénédiction du pape pour qu'il protège l'enfant qu'elle porte. Malgré le fard, Fabiola est pâle, nous disent ses biographes, d'une pâleur de linceul aussi blanche que sa robe est immaculée. Quand Fabiola rentre en Belgique, elle est prise de nombreux malaises. Baudouin répond seul présent aux obligations officielles. Or, peu à peu, les journalistes qui scrutent son visage constatent que le sourire a tendance à se figer. Des rumeurs commencent à courir dans la presse. Et le 23 juin 1961, à 18h58, un communiqué de presse commence à préparer les Belges. L'agence Belga publie une première dépêche dans laquelle il est écrit que l'heureux événement tant attendu en Belgique pourrait ne pas avoir lieu. Fabiola aurait perdu le bébé qu'elle portait. Il semble que la chose soit maintenant officielle. Elle redoute aussi l'annonce de la nouvelle au public. Et au soir du dimanche 25 juin, le grand maréchal de la cour, qui s'appelle le comte Gobert d'Aspremont-Linden, va annoncer les choses officiellement. Voilà ce que ça donnait, toujours sur l'antenne d'Europe numéro 1.
Contrairement à ce qu'il y avait été permis d'espérer, un heureux événement ne doit pas être attendu au château royal de Laeken dans les temps prochains. L'état de santé de la reine ne donne lieu à aucune inquiétude. Sa Majesté sera complètement rétablie d'ici quelques jours. Tel est le texte du communiqué qui a été remis à la presse par le grand maréchal de la cour. Comme vous allez pouvoir le constater, une certaine tristesse, une certaine déception s'est manifestée à l'annonce de cette nouvelle.
C'est malheureux.
On aurait aimé avoir un héritier quand même. Hein.
Je trouve que c'est triste pour la Belgique.
Je ne m'intéresse pas fort à la famille royale.
Mais... Pourquoi vous n'êtes pas royaliste?
Non, pas du tout, non.
C'est de sa grande chance, facile d'avoir un enfant, quoi, alors. On aurait aimé qu'elle serait contente.
Bah, c'est malheureux, enfin. À part qu'il y avait beaucoup d'espoir. Hein.
Vous espériez un héritier?
Oh oui. Tout le monde comptait un petit peu dessus, quoi.
Et si l'annonce de cette nouvelle n'a pas provoqué de grosses déceptions, on regrette quand même que Fabiola ne soit pas maman bientôt. Car les incidents qui étaient nés il y a quelques semaines à propos de cet heureux événement s'étaient vite estompés et ils avaient fait place au contentement. On ne pensait plus qu'à une chose, la naissance d'un garçon qui aurait fait de lui l'héritier direct de la couronne.
Ici Fred Gillissen qui vous a parlé de Bruxelles, Europe numéro 1.
En fait, ce qui pourrait passer pour un triste accident de maternité tournera au calvaire pour Fabiola. Les mois et les années ne feront en effet que confirmer l'impossibilité où elle se trouve de donner un enfant à son mari et un petit héritier au peuple belge. Car la jeune reine va dès lors enchaîner les fausses couches en 1961 donc, en 1962, 1963, 1966, 1968. En 79, le roi Baudouin déclarera « Longtemps nous nous sommes interrogés sur le sens de notre souffrance, peu à peu, nous avons compris qu'en n'ayant pas d'enfants à nous, notre cœur était plus libre pour aimer absolument tous les enfants. »
Sur Europe 1, un extrait de l'Adagio dirigé par Léonard Bernstein. Revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'union du roi Baudouin et de la reine Fabiola.
Vous imaginez l'atmosphère à Laeken à la fin de cette année 61 et il a fallu ranger évidemment les robes de grossesse spécialement commandées à Balenciaga. Le plus poignant sans doute, c'est la présence au château d'une nurserie toute prête avec d'un côté un berceau acheté à Bruxelles au cas où serait née une petite fille et de l'autre le berceau traditionnel de la famille royale où dorment les héritiers mal depuis Léopold Ier. De son côté, le roi Baudouin souffre en silence. Seulement il est roi, il n'a pas le droit de montrer sa tristesse pour un être humain. On peut dire que c'est sans doute une des souffrances les plus aiguës qui soit. Et vous savez, quand vous êtes obligé d'être là, souriant, et que au fond, vous êtes ravagé. Il continue donc, imperturbable, à remplir ses devoirs officiels. Le 22 juillet 1961, au lendemain du jour de la fête nationale belge, le couple va quand même s'autoriser quelques vacances. Il part pour l'Espagne, avec l'intention de se ressourcer, de se retrouver, de rassurer Fabiola. Ils partent pour Zaragoza, dans la propriété de l'enfance de Fabiola, où attend sa mère, Doña Blanca. Car ne l'oublions pas, Fabiola est espagnole. Elle est née à Madrid le 11 juin 1928. C'est la sixième de cet enfant de Doña Fabiola, de Moraya Rogón. Cette famille est une famille très importante hein, de la cour d'Espagne, très proche du roi Alphonse XIII, la reine Victoria Eugénie est d'ailleurs la marraine de Fabiola. Cette enfance a été marquée par l'exil. Il ne faut pas oublier qu'en 1931, la monarchie espagnole a chuté. Fabiola ne reviendra dans son pays natal qu'en 1939. En 1957, elle entamait, si l'on peut dire, une carrière d'infirmière juste avant de rencontrer l'homme de sa vie. Quant à Baudouin, me direz-vous, eh bien Baudouin, lui, était né le 7 septembre 1930, donc il est un tout petit peu plus jeune que Fabiola. Il est né en Belgique, lui, bien bien entendu. Il était le deuxième enfant, mais le premier fils de Léopold III et de la reine Astrid, dont je vous avais parlé il y a quelque temps. Il a une sœur, Joséphine Charlotte, et un frère, Albert, qui lui succédera donc en 1993. Orphelin de mère à 5 ans, Baudouin va sans doute avoir une enfance assez triste, disons-le, et qui sans doute jouera un rôle. Vous savez que sa mère est morte dans cet accident de voiture absolument effroyable. Ça va jouer un rôle dans son caractère, dans cette espèce de nature un peu toujours très réservée et sans doute un peu triste, un fond de tristesse chez le roi Baudouin. Il est lui aussi contraint à l'exil après la défaite de 1940, bien entendu, enfin la défaite après l'invasion, devrais-je dire. Il devient roi à 21 ans, à la suite de l'abdication de son père qui s'est faite dans des conditions extrêmement compliquées, le 16 juillet 1951. Il n'est d'ailleurs que le cinquième roi des Belges. Il faut savoir que les règnes ont longtemps été extrêmement longs en Belgique. Alors qu'ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, Baudouin et Fabiola vont tomber amoureux d'un regard. La rencontre est organisée par Victoria Eugenia, justement, par la veuve du roi Alphonse XIII, qui rêvait de marier sa petite fille Anne à Baudouin, le roi des Belges. Elle s'était dit qu'il ferait un très beau couple. Alors elle convie Baudouin en Espagne. Et puis, évidemment, il faut mettre dans l'affaire un certain nombre de jeunes gens pour que l'invitation soit sympathique. Et Fabiola, la filleule de l'ancienne reine, fait partie des personnes invitées. Elle est elle aussi l'amie d'Anne, du reste. Fabiola, je vous l'ai dit, a 2 ans de plus que Baudouin. Il faut imaginer une jeune fille débordante de vie, extrêmement joyeuse. Baudouin s'avance, écrivent Philippe Segui et Antoine Michelan. Mademoiselle Moraille Aragon plonge en révérence. Lorsqu'elle se relève, elle voit un regard tout de douceur, de souffrance aussi. Le regard d'un homme qu'on a envie d'aimer, de protéger contre les fantômes d'un passé lourd d'épreuves. Si elle était fille d'infante, s'il n'était pas monarque, tout irait mieux. Ben oui. Eh bien, néanmoins, malgré cette double situation compliquée, les choses vont s'arranger. Après ce premier échange, Fabiola va revoir le roi, mais elle va le revoir en cachette, grâce au concours de son confident, l'abbé Cavestani. Il est entré en contact avec un dominicain, le père Braun, qui est l'aumônier de la cour de Belgique et qui appartient à l'entourage du roi des Belges. Quand je dis à l'entourage au cercle le plus étroit même. Il lui explique que Baudouin Ier a été touché par une jeune espagnole aperçue chez la reine Victoria Eugénie. Impossible que le jeune roi se déclare aussi facilement, bien entendu. Il faut tenir compte de sa réserve naturelle et puis de sa position, tout simplement. Alors on organise en cachette, au Luxembourg, en 1959, une deuxième rencontre qui sera suivie d'autres jusqu'à la demande en mariage. Tout les rapproche. La même générosité d'abord, le même sens aigu du devoir, la même foi surtout peut-être, qu'ils entendent cette foi offrir au peuple belge. La famille de Fabiola apprend le mariage sur le tard. En fait, Fabiola est le dernier enfant à marier de cette famille. Sa mère n'en croit pas ses oreilles. Elle est heureuse, elle s'exclame « Un roi, ma fille va épouser un roi !» Si ton père avait pu voir ça, il continue de veiller sur toi. Tout ce qui nous arrive de bon, nous le lui devons. Oh ma chérie, tu es reine !» Et c'est le roi des Belges qui va téléphoner lui-même à sa future belle-mère le soir même. L'annonce officielle du mariage a lieu le vendredi 16 septembre 1960, le nouveau Premier ministre du Royaume annonce, je cite, « J'ai la joie profonde de pouvoir annoncer au pays l'heureuse nouvelle des fiançailles de Sa Majesté le Roi avec Doña Fabiola Moray Aragon, fille de feu Don Gonzalo Moray Fernandez, comte Moray, marquis de Casariera et de Doria Blanca de Aragon y Carillo y de Albornoz. » J'espère que le Premier ministre belge a dit tout ça avec plus d'aisance que moi. À Madrid, Fabiola est littéralement acclamée. Le peuple lui souhaite d'avoir beaucoup d'enfants. La jeune femme s'empare du micro. « Dieu vous entende », lâche-t-elle. Ah, si seulement Dieu les avait entendus.
Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail, europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur l'union du roi Baudouin et de Dona Fabiola.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'union du roi Baudouin et de la reine Fabiola.
Alors nous reviendrons tout à l'heure avec Philippe Séguy sur les festivités extraordinaires de ce samedi 10 décembre 1960. Hein. 4200 invités au Palais Royal à Bruxelles. Enfin, tout ça était tout à fait extraordinaire. Sauf qu'entre-temps, vous avez bien compris qu'au tout début de l'été 1961 est arrivée cette mauvaise nouvelle. Alors, au château de Laeken, qui est la résidence des souverains belges à Noël 1961, on peut dire que les fêtes prennent une tournure un peu particulière. Fabiola, on peut dire que Fabiola a accepté l'échec de sa maternité en tant que femme. En tant que reine, elle décide d'aborder la nouvelle année dans la confiance. Elle est là, attentive à tous, qui souhaitent que les fêtes se déroulent dans la sérénité. Sa belle-sœur, Paola, celle qui plus tard deviendra la reine Paola, est enceinte à ce moment-là. Elle attend, elle, son second enfant. La presse se fait d'autant plus pressante auprès de Fabiola et de Baudouin. Fabiola est heureuse pour sa belle famille, évidemment. Cette première grossesse malheureuse ne va pas la dissuader de très vite redevenir enceinte. Dès février 1962, la presse remarque quelques indices, notamment au moment du gala donné au Théâtre du Parc en l'honneur de la Comédie-Française. La souveraine a accepté une coupe de champagne, mais elle y a à peine trempé les lèvres sans en boire une seule goutte. La presse est là, vous savez, ces personnes royales sont scrutées littéralement. Les journalistes ont compris sans doute ce qui devait arriver. La reine des Belges a peur en vérité. Elle est folle d'inquiétude. En mars 1962, elle décide de consulter les meilleurs médecins, les meilleurs spécialistes, on peut dire mondiaux. Elle s'envole avec son mari pour la Suisse pour rencontrer le professeur Rocha, qui est un éminent gynécologue et dont le diagnostic est terrible. Il existe 10 chances sur 100 pour que vous puissiez mener à terme une grossesse, dit-il, et seulement 5 pour que vous surviviez à l'accouchement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une façon violente d'annoncer les choses. En Belgique, d'autres spécialistes ont dit craindre pour la vie de la reine en cas d'une grossesse. Certains préconiseraient même une interruption thérapeutique. Évidemment, elle ne veut pas du tout en entendre parler. Elle menace même Baudouin d'annuler leur mariage si on devait lui imposer une telle solution. Et quelques semaines après, la grossesse finit par aboutir. L'enfant naît, mais il naît bien trop tôt. 5 mois avant terme, il est mort-né. Elle ne va pas pour autant se laisser décourager. Dans la presse, on peut lire que le Parlement serait prêt à voter une loi abolissant la primogéniture mâle et autorisant les femmes à régner. Et ce, dans l'hypothèse où Fabiola mettrait au monde une fille. Mais encore faudrait-il qu'elle mette au monde un enfant. En 1966, de nouveau, la reine est enceinte. Elle affirme à sa sœur « Je serai mère un jour, dussé-je y laisser la vie ?» Elle porte cette fois un bébé depuis 5 mois. Tout a l'air de se dérouler à merveille. La reine des Belges sourit, elle est comme toujours radieuse, jusqu'à la nuit fatidique, où elle est prise de douleurs épouvantables. Elle est hospitalisée d'urgence pour une grossesse extra-utérine. Fabiola doit être opérée, comme l'explique le mardi 12 juillet un communiqué publié par la presse. Je cite, « Une évolution imprévue de l'état de santé de la reine a entraîné la nécessité d'une intervention chirurgicale. Celle-ci a été pratiquée en clinique dimanche dans la soirée. L'état de santé de la reine est satisfaisant. » Et de l'hôpital, à peine opérée, Fabiola témoigne « J'offre ma souffrance pour la réconciliation de tous les Belges. » Elle continuera son combat pour devenir mère. Elle effectuera, vous savez, le pèlerinage d'Assise en Italie. Elle se rend jusqu'à la basilique pour implorer la naissance d'un enfant. « Si Dieu ne m'accorde pas ce que l'on attend d'une reine, ma place n'est plus ici, » dit-elle. Et son mari est là qui, lui, constamment la rassure, au contraire, bien entendu. Parmi les spécialistes qui se prononceront, le grand professeur suédois Kari Axel Gemzel, auteur d'un traitement très efficace contre la stérilité, elle se renseigne sur une opération de la dernière chance pour lui rendre la possibilité d'accéder à la maternité. Et en mars 1968, la reine se fait opérer à la clinique Saint-Jean de Bruxelles par un chirurgien français. Elle vient d'avoir 40 ans, maintenant il va falloir accepter l'évidence. La reine Fabiola n'aura jamais d'enfant. Bonjour Philippe Séguy.
Bonjour.
J'ai commencé par l'aspect dramatique de l'existence et du règne de Fabiola. Évidemment, il y en a d'autres nettement plus souriants et nous allons y venir ensemble.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous sommes au cœur de l'histoire de la reine Fabiola et du roi Baudouin avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Philippe Séguy, grand reporter au magazine Point de Vue, romancier, spécialiste de la cour de Belgique, auteur de Fabiola, la reine blanche, avec Antoine Michelin aux éditions Perrin.
Avec Antoine Michelin, que nous saluons. Bonjour Philippe Séguy, je viens de vous dire bonjour. Est-ce qu'on peut vous demander, pour une fois que nous parlons d'une reine en vie, comment va la reine Fabiola ?
Écoutez, la dernière fois que nous avons vu la reine Fabiola, c'était au moment de l'intronisation du prince Philippe, qui devenait le roi Philippe avec son épouse, la reine Mathilde. La reine Fabiola se déplace en fauteuil roulant. Elle a eu des pépins de santé il y a 2 ou 3 ans de cela, problème de thyroïde, problème pulmonaire, mais la santé de la souveraine se maintient. La reine a aussi beaucoup d'humour, si je puis me permettre d'ajouter cela. Il y a 2 ans de cela, elle avait des menaces, elle avait reçu par une sorte d'illuminé des menaces de mort. Une lettre était parvenue à la presse belge et un malade mental pensait simplement la supprimer façon Guillaume Tell à l'arbalète.
Ah bon, oui.
Ce qui est quand même assez rare, Dieu merci, dans le cadre d'une souveraine. Et la reine, encore une fois, a beaucoup d'humour, puisque lors d'une fête nationale, le fameux 21 juillet, elle est arrivée sur la tribune officielle, tenant distinctement une pomme verte dans ses mains et l'adressant justement à la presse et donc au monde entier en disant bah, « finalement, je suis toujours vivante et bien portante ». Voilà, ça c'est l'humour
elle
de la
reine. Elle n'a pas été jusqu'à la poser sur sa tête.
Non, mais bon. Ça c'est l'humour de la reine. Elle ose, elle a beaucoup d'audace, Fabiola.
Alors vous dites la reine, il y a 3 reines en Belgique
trois
maintenant.
3 reines, absolument. La reine Fabiola, toujours vivante, 85 ans aujourd'hui. La reine Paola, l'épouse d'Albert II, ancienne princesse de Liège, belle-sœur de la reine.
Quel est son titre actuellement? Elle est toujours reine,
Paola. Bon, reste toujours le prédicat de majesté. Et évidemment, la reine Mathilde, ancienne duchesse de Brabant, l'épouse de l'actuel roi des Belges, le roi Philippe.
Ils ont beaucoup marqué leur temps, Baudouin et Fabiola. On peut dire que toutes les années 60, 70 et même 80 ont été marquées par la présence de ce couple assez exemplaire, en quelque sorte.
Si vous me passez la formule, je dirais que c'est le chouchou du Gotha.
Oui, voilà.
C'est-à-dire que ce sont deux personnages assez étonnants. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aiment. L'amour n'est pas toujours forcément, hélas, le bienvenu dans le Gotha royal. Et ils ont, pendant toute leur vie, à deux, multiplier les gestes tendres. Ils se prenaient par la main, ils se prenaient par la taille, ils se parlaient. Vous savez, j'ai le souvenir d'une très jolie scène. Un jour, au palais royal de Laeken, lorsque le roi Baudouin était encore vivant, on leur a montré le film de leur mariage. Alors, la caméra était placée dans le salon de telle manière qu'on n'entendait pas, évidemment, ce que le roi disait à la reine, mais on voyait leur tendresse, on voyait leurs gestes, on voyait leurs regards. Et ils ont commenté leur mariage en multipliant ces gestes tendres. C'était charmant.
Ce mariage, c'était une très grande fête, on
immense
peut dire.
Immense fête. Ouais. C'est-à-dire que
1960,
voilà, va se déplacer. Roi, reine, tous les souverains sont présents et Fabiola rayonne dans une ravissante robe, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, créée par le créateur d'ailleurs de sa mère, Cristobal Balenciaga, le grand couturier espagnol, même s'il a fait sa carrière en France, Cocorico. Une robe, je dirais presque de princesse ou de reine médiévale, bordée d'hermine blanche. Et elle aura ce fameux geste en croisant ses mains, dessinant comme une sorte de cœur devant le public. Et à ce moment-là, la popularité de la reine est acquise. Enfin, les Belges l'aiment.
Le fait qu'elle soit espagnole ne ravive pas certains souvenirs un peu compliqués dans ces Flandres.
Et pourtant, on sait très bien que le comte d'Albe, le terrible duc d'Albe, qui ravageait les Flandres, mais elle va parvenir à se faire aimer en multipliant justement les gestes de bonne volonté. Par exemple, lorsqu'on avait fait ce livre avec Antoine Michelin, on avait rencontré bien évidemment plusieurs personnalités, dont une ambassadrice, qui nous disait combien la reine justement maîtrisait admirablement bien le flamand, à tel point qu'on la confondait, qu'on ne reconnaissait plus du tout son accent espagnol. La reine est une polyglotte. La reine a multiplié fondamentalement les actions, créant par exemple tout de suite, le lendemain de son mariage, son secrétariat, en faisant vendre justement les cadeaux qu'elle avait reçus au moment du mariage, pour pouvoir justement être au service de ses contemporains.
J'ai raconté, en reprenant évidemment la tradition, cette rencontre qui se serait passée sous les auspices de la célèbre reine Victoria Eugénie, la veuve d'Alphonse XIII, qui était d'ailleurs la petite fille de la reine Victoria et la filleule de l'impératrice Eugénie des Français.
Absolument.
Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est bien Victoria Eugénie qui a tout fait pour que le roi Baudouin épouse Anne dans un premier temps et puis finalement il s'est trouvé
on
que c'est Fabiola.
On connaît la réputation de marieuse de la reine Victoria Eugénie. On connaît en effet les rapports extrêmement privilégiés que la famille du marquis de Casarrières, le père de Fabiola, entretenait régulièrement avec Alphonse XIII. Avant de répondre à votre question, une toute petite anecdote amusante. Alphonse XIII avait l'habitude de venir chez la famille de Fabiola histoire de faire une partie de bridge. Et un jour, il voit Jaime, le frère cadet de Fabiola, aîné de Fabiola, et il lui dit « Que veux-tu faire plus tard ?» Le petit garçon a 14 ans. Et Jaime, qui a cet humour extraordinaire, va répondre « Pape ». Alors évidemment, il ne sera pas pape puisqu'il va devenir comédien.
Oui,
il va jouer dans ce fameux film « La folie des grandeurs ». Mais pour revenir à votre question, en fait, il y a une seconde explication certainement beaucoup plus réelle, beaucoup plus véritable que la première de cette fameuse rencontre. Et cette histoire a été révélée il y a quelques années de cela par Monseigneur Swenens, qui était à l'époque primat de Belgique, extrêmement proche du roi Baudouin. Et en fait, cette histoire est incroyable, alors qu'elle se déroule quand même au XXe siècle et qu'on jurerait qu'elle est véritablement, qu'elle boit à la racine, enfin au cœur du Moyen-Âge. Il se trouve que le clergé belge connaît une femme d'origine irlandaise qui s'appelle Veronica O'Brien. Et cette Veronica O'Brien, extrêmement proche en quelque sorte des milieux religieux, a des visions. Et elle va réussir à convaincre Monseigneur Swenens, qui à l'époque n'est qu'évêque, que la future épouse de Baudouin, puisque toute l'Europe se pose la question de savoir quand enfin ce roi triste va-t-il enfin convoler, cette future épouse se trouve en Espagne. Et on lui donne les subsides et les possibilités de partir en Espagne, trouver l'épouse du roi Baudouin. Elle va donc à Madrid, elle se fait passer pour une enquêtrice qui s'intéresse au collège religieux espagnol. On lui dit, une directrice de collège lui dit, mais je connais une demoiselle de Restauracy merveilleuse qui pourrait vous accompagner dans sa petite voiture. Accessoirement, elle est infirmière à l'hôpital, elle est épatante, vous allez voir. Et cette Veronica confiera à Monseigneur Swenens que lorsqu'elle arrive dans la chambre de Fabiola, elle voit un tableau représentant la Vierge et c'est exactement la toile qu'elle a vue dans sa vision. Elle a trouvé la future reine des Belges.
Je ne sais pas si cette version-là est plus crédible que la première, mais en tout cas, elle est nettement plus romanesque.
Elle est plus poétique peut-être, mais elle est tout à fait étonnante.
Alors, ils étaient véritablement l'un et l'autre des catholiques fervents. Le ciment de cette union un peu exemplaire du roi Baudouin et de la nouvelle reine Fabiola, c'est la foi,
c'est
évidemment.
La foi. Et c'est une foi qui est vécue complètement au quotidien. C'est un couple qui prie. Fabiola a cette formule qui est très très belle. Si vous saviez comme Baudouin est beau quand il prie, c'est une façon, encore une fois, très étonnante d'adresser son amour à son mari. Or, cette foi, Fabiola la vit, je disais, au quotidien, je dirais jusqu'à parfois d'ailleurs avoir des détracteurs. Et on sait par exemple que tel ou tel personnage du palais royal, membre je dirais de son staff privé, a été remercié simplement parce qu'il était divorcé. En même temps, dans le même temps, ça ne l'empêche pas de nommer comme grand chambellan un homme qui est de confession israélite et qui est franc-maçon. Donc c'est aussi un paradoxe assez incarné. La reine est très proche des mouvements charismatiques, des mouvements pentecôtistes, ou qui sont fondés, je dirais, sur l'adoration, sur le prosélytisme et sur une façon, je dirais, de chanter le Christ d'une façon très, très généreuse. Et on sait par exemple que le mariage de la princesse Astrid, nièce de la reine Fabiola, avec l'archiduc Lorenz d'Autriche-Est, a été fait dans le cadre du mouvement charismatique.
Cette reine Fabiola a eu, on peut dire, un rôle important en tant que souveraine. On va y venir dans un instant. Cette foi extraordinaire, j'ai presque envie de dire, la sort un peu du XXe siècle. On a l'impression que rien n'attache, ni Baudouin du reste, ni Fabiola, à leur époque. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont pas très très modernes?
Disons que c'est ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'intervention, j'allais dire quasi divine, ou tout au moins mystique, de Veronica O'Brien. C'est vrai que c'est un personnage, ce couple est formé par deux personnages qui viennent d'un ailleurs. On jurerait en effet que ce sont des rois, ce sont des souverains médiévaux, on n'est pas loin des rigeurs du de Berry, enfin, des légendes de Saint-Ursule. Enfin, c'est quelque chose qui dépasse, je dirais, l'entendement cartésien un peu manichéen du XXe et plus maintenant du XXIe siècle.
Il est vrai que la Belgique sortait d'une période extrêmement troublée. Il y a eu toute l'affaire du comportement du roi Léopold III pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ceux qui étaient favorables à son maintien sur le trône et ceux qui voulaient absolument qu'il en parte. Son fils, donc, le roi Baudouin, lui succède dans des conditions très complexes, hein, en 1951, disons dans des conditions assez sombres, qui ne faisait du reste que raviver tout le souvenir de cet accident de la reine Astrid. Enfin, il y a quand même une légende noire de cette couronne de Belgique. Et puis d'un seul coup, à partir de 1960, grand soleil, plus de nuages, tout a l'air d'aller bien pendant ce long règne de Baudouin et de Fabiola. Quand je dis plus de nuages, en tout cas, une ombre, et une grosse ombre, c'est celle que je racontais, c'est cette impossibilité d'avoir des enfants pour ce couple tellement croyant, tellement uni. On pouvait imaginer une très très grande famille, et ben non, pas d'enfants. Alors l'affection maternelle de Fabiola et l'amour, on va dire, paternel de Baudouin, ils vont devoir se reporter sur autre chose. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Extrait de l'hymne belge sur Europe 1, la Brabançonne. Nous parlons dans Cœur de l'Histoire cet après-midi de la reine Fabiola et du roi Baudouin. Avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Philippe Séguy, grand reporter au magazine Point de Vue, romancier, spécialiste de la cour de Belgique, auteur de Fabiola, la reine blanche, avec Antoine Michelan aux éditions Perrin.
Et sur ces ultimes accents de la Brabançonne, je profite de la circonstance pour saluer tous nos auditeurs belges. Ils sont très très nombreux et vous savez combien nous sommes très attentifs à l'histoire belge. D'ailleurs, on peut dire, Philippe Séguy, parce que je dis grand soleil pendant ces 32-33 années de règne, c'est pas tout à fait vrai. Il y avait déjà la grande question linguistique, notamment. Hein.
Bien sûr. En fait, dès le début du règne de Baudouin et de Fabiola, les problèmes sont là dans la mesure où il y a à la fois un problème, vous l'avez rappelé, lié à la politique, ce qu'on a appelé la fameuse question royale. La fin du règne de Léopold s'est passée évidemment dans les conditions que l'on sait. Un référendum va faire en sorte que le roi soit obligé de quitter le pouvoir. Son fils va devoir débuter son règne avec d'anciens conseillers de son père ou des nouveaux qui ont souhaité finalement la fin de la monarchie. Ensuite, il y a au sein du royaume des problèmes liés à l'industrie,
à la crise des charbonnages,
à des grèves d'une très très grande violence. Il y a des pluies torrentielles qui vont provoquer plusieurs accidents gravissimes, où d'ailleurs, Fabiola montrera son courage et sa détermination.
Donc, ce lendemain de Seconde Guerre mondiale, on est aussi en pleine décolonisation. Il faut régler la question du Congo.
Exactement. Ce qui fera d'ailleurs en sorte que Baudouin puisse partir dans cet ancien Congo, l'actuel Zaïre. Et si l'arrivée du roi est assez triomphale, il faut régler cette question coloniale et de manière définitive. La reine va toujours soutenir le roi Baudouin et va faire en quelque sorte permettre à la monarchie belge de rayonner, je dirais, en Belgique et aussi en Europe.
Et hors des frontières, parce qu'ils ont une activité diplomatique considérable.
Tout à fait. Même s'ils ne partent pas en Russie, comme l'avait fait la très célébrissime reine Elisabeth, Baudouin et Fabiola veulent en quelque sorte que la Belgique rayonne à l'étranger. Et la grande obsession de Baudouin, c'est évidemment la question européenne. Et c'est d'ailleurs le roi qui fera tout ce qui lui est possible pour que le siège des institutions européennes rayonne à Bruxelles.
Et c'est l'œuvre de Baudouin lui-même.
Ça, c'est l'œuvre de Baudouin, c'est son jeu le plus cher. Il faut en quelque sorte rendre hommage à ce souverain profondément européen. Il va par exemple faire en sorte de permettre à l'Espagne de beaucoup militer pour que l'Espagne rejoigne la communauté économique européenne. Et lorsque justement l'Espagne entre enfin dans l'Europe, il donne un très grand dîner de gala à Laeken et il va saluer le roi Juan Carlos et Dona Sofia, la reine d'Espagne, en disant combien il est proche de l'Espagne, et il ajoute ce mot qui fait évidemment frémir l'assistance pour des raisons évidemment personnelles. Oui. Donc c'est un très grand chef d'État, je pense, très profondément ancré sur les valeurs chrétiennes, mais aussi politiques, très profondément aimé par les Belges. Et d'ailleurs, la mort de Baudouin va susciter en Belgique comme en Europe une très très grande émotion.
On peut dire que la mort de Baudouin, elle a été longtemps attendue, puisqu'on savait qu'il était très malade.
Et la France, d'ailleurs, Fabiola va rendre hommage à un moment donné derrière la France, en disant que Paris a sauvé la vie du roi Baudouin. Il avait été opéré à la Riboisière. Le couple était évidemment très aimé des Parisiens, parce que la reine avait un appartement rue d'Artois, ce qui lui permettait, lorsqu'il n'était pas à l'ambassade de Belgique, de multiplier les séjours à Paris, que sa mère d'ailleurs aimait profondément. Donc il y a eu une véritable histoire d'amour, on peut le dire, entre la France et la Belgique, grâce aussi au couple qu'a formé Baudouin et Fabiola.
Oui, ils étaient très présents. Très présents,
très présents.
Votre propre magazine, Point de vue, faisait
absolument
très souvent sa une.
Tout à fait. Rendons hommage à Point de vue, merci Franck Ferrand. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au moment justement de la mort de son mari, on rappelait tout à l'heure que ça fait 20 ans maintenant que le roi Baudouin est décédé, Fabiola monte en quelque sorte, montre, je dirais, au public, à la foule, combien justement elle est reconnaissante de cet amour immense, de ce flot d'amour finalement qui l'inonde, avec ce fameux geste charismatique. Elle est la reine en blanc, c'est-à-dire qu'elle porte le deuil des reines catholiques.
J'ai cité tout à l'heure cette phrase terrible et poignante du roi Baudouin disant « Eh bien maintenant, je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu nous interdisait d'avoir un enfant et pourquoi je subissais cette souffrance. Je veux la transformer en amour pour mon peuple, en quelque sorte. » Il y a surtout une très grande attention de la part de ce couple royal et de Fabiola en particulier pour l'enfance déshéritée, maltraitée, etc.
Et tous les démunis, et les prostituées également. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Baudouin et Fabiola vont à la rencontre des prostituées, des filles de manie finalement, qui dans des villes comme Anvers connaissent des situations d'une précarité bouleversante. Elle va devant, par exemple, les enfants trisomiques, elle va se battre pour que justement l'hygiène mentale soit, je dirais, au plus proche des réalités. Là aussi, on est encore une fois face à une reine chrétienne qui se bat pour ses idées.
Les handicapés mentaux.
Exactement. Et aussi les personnes du troisième âge, dynamiser, je dirais, les moyens pour les hôpitaux, les écoles, les crèches. C'est une femme extrêmement proche des réalités du quotidien.
Alors en même temps, il ne faut pas non plus exagérer l'importance de cette couronne belge. Il faut bien expliquer que nous sommes dans une monarchie, tout ce qu'il y a de plus constitutionnel, que le roi règne, mais qui ne gouverne pas du tout.
Et il y a aussi, il ne faut pas le nier, un véritable et profond courant républicain, aussi bien d'ailleurs indépendantiste, qui est d'ailleurs traduit par certains mouvements d'origine flamande, dont le fameux Vlaamblok, qui a été dissous, mais dont le slogan faisait un peu quand même froid dans le dos, puisqu'il s'agissait de Belgique crève. Donc il y a une densité, je dirais, une épaisseur, je dirais, d'arguments pro-républicain qui est absolument réel. Et je pense que le roi Philippe doit avoir véritablement les épaules suffisamment larges pour faire face actuellement à ces problèmes.
Alors, la reine, l'actuelle reine Mathilde, sa devancière, la reine Paola, était sans doute aimée des Belges. Mais la reine Fabiola, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait une espèce de ferveur particulière, mais aussi, disons-le, vous parliez des républicains, au-delà même des républicains, il y avait des critiques. Des critiques qui se concentraient notamment sur ce côté très hyper religieux de cette femme espagnole, il ne faut pas l'oublier.
Voilà, on reproche à la reine en quelque sorte d'être trop religieuse et il y a eu quand même une sorte de mini-scandale l'année dernière. La reine crée une fondation et on s'aperçoit finalement... Fabiola crée une fondation et on s'aperçoit finalement que, d'après ses détracteurs, cette fondation serait faite pour permettre à ses très nombreux neveux et nièces de percevoir son héritage à sa disparition sans payer les fameux 70% de droits. Donc, scandale en Belgique et la liste civile qui est attribuée à Fabiola par courtoisie, parce que constitutionnellement, ce n'est que le roi qui doit et qui peut toucher sa liste civile, la liste civile accordée à Fabiola passe d'1 500 000 euros à un peu plus de 900 000. Alors, ce qui est une somme évidemment très importante, mais n'oublions pas que cette liste civile, que cette somme permet justement de régler les dépenses de la maison de Fabiola, de son personnel, de ses collaborateurs qui sont extrêmement nombreux.
Donc ça, c'est bien le cas de la reine veuve là, qui se pose, évidemment.
Voilà.
Qui continue d'être présente dans un certain nombre de cérémonies de plus en plus espacées, disons-le.
Elle était présente lors du passation de pouvoir, de l'intronisation de l'actuel souverain belge, Philippe. Et moi, je me souviens très très bien, c'était au mois de juin dernier, toujours dans son fauteuil roulant, lorsqu'on l'a tourné vers la foule qui était massée derrière les barrières, il y a eu une véritable explosion de joie et quelqu'un a hurlé « Viva la Regina di Corazon », vous me pardonnerez mon accent balbutiant, « Vive la Reine des Cœurs ». Et c'était véritablement une liesse populaire extraordinaire. Et à chacune de ces apparitions, c'est la même chose.
Vous avez parlé de ses neveux et nièces, évidemment, n'ayant pas eu elle-même d'enfants, elle beaucoup reporté son affection sur ses neveux et nièces qu'elle a élevés certains d'entre eux.
Absolument. C'est elle qui fera l'éducation de Philippe, comme elle fera en sorte
de l'actuel roi.
De l'actuel roi, comme elle fera en sorte que le couple que formaient à l'époque le prince et la princesse de Liège, Albert et Paola, ne se délitent pas. Elle insistera beaucoup pour que le prince et la princesse restent ensemble, restent mari et femme. C'est elle aussi qui a fait l'éducation d'Astrid. C'est elle qui a certainement œuvré pour qu'elle épouse cet archiduc Lorenz d'Autriche-Est. C'est elle qui sera d'ailleurs toujours en fée bienveillante pour donner des conseils justement à Philippe et à son frère et à sa sœur.
Alors évidemment, Philippe Séguy, vous êtes le biographe de la reine Fabiola, vous êtes grand reporter à Point de Vue, donc si je vous demande si pour les Belges la monarchie a une utilité et si elle joue un rôle, vous n'allez sûrement pas me dire non.
Vous avez parfaitement lu dans mes pensées. Je pense que la monarchie est un véritable ciment pour la monarchie, pour la Belgique, que la monarchie en quelque sorte a, je pense, de l'avenir. Philippe a montré, l'actuel souverain, qu'il était tout à fait, je pense, capable de faire un excellent roi. Il a fait une très très belle prestation de serment, avec beaucoup d'allure, beaucoup de noblesse. Ça a été d'ailleurs rappelé par tous les médias belges. Il faut attendre maintenant les élections municipales en mai 2014, qui va renouveler la Chambre des députés. Et là, on verra d'une façon claire.
C'est les élections législatives.
Législatives.
Les municipales, c'est chez nous.
Absolument. Vous me pardonnerez le lapsus. Et là, on va voir véritablement à quel moment, quel dosage, je dirais, les pro-républicains vont l'emporter ou non, les pro-flamands vont l'emporter ou non.
Merci beaucoup, Philippe
Merci Séguy. À vous.
Je rappelle qu'avec Antoine Michelan, vous êtes l'auteur chez Perrin de cette Fabiola, la reine blanche. Blanche parce qu'elle a toujours porté le blanc dans toutes les circonstances, y compris au moment du deuil de son mari. Elle portait le grand deuil blanc qu'on appelle le deuil des reines.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, aux questions de Sophie et Violaine, qui nous les a envoyées via la page Facebook de l'émission. Sophie demande d'où vient la tradition de la Saint-Valentin et Violaine veut tout savoir sur le French Kiss.
Alors pour ce qui est déjà de la Saint-Valentin, là ça c'est assez connu, mais il faut le dire peut-être, le répéter, la tradition s'enracine dans la plus haute antiquité, sans doute même dans la préhistoire. Vous savez, on est à cette période de l'année, on s'en rend pas beaucoup compte aujourd'hui, parce qu'il fait un temps atroce en tout cas sur Paris. Mais c'est le moment où les jours allongent, où on est déjà dans les premiers frémissements de ce qui un jour va devenir le printemps. Il ne faut pas oublier qu'à Rome, dans la Rome antique, on célébrait à ce moment-là la fête des Lupercales en l'honneur du dieu Faune, protecteur des troupeaux, de la fécondité. Il s'agissait en quelque sorte d'une sorte de rite de purification qui symbolisait le cycle vital du retour à la vie, c'était la fécondité. Alors, en l'an 495, le pape Gélas Ier va interdire cette fête des Lupercales, qui était vraiment trop païenne, et il décide que le 14 février sera plutôt le jour consacré aux trois saints martyrs qu'on appelle Valentin. Et l'un des trois saints, c'est Valentin Terni, un moine qui a vécu à Rome au 3e siècle. Alors, la légende veut que l'empereur Claude, ne souhaitait pas que ses soldats se marient pour pouvoir les envoyer à la guerre, et il avait appris que Valentin, qui était un chrétien prosélyte, mariait secrètement des couples selon les rites de l'Église. Il venait par ailleurs en aide aux chrétiens persécutés. Il le fait arrêter. À ce moment-là, Valentin va tomber très amoureux de la fille de son geôlier, Julia. Claude, apprenant l'ampleur, si je puis dire, de l'activité de Valentin, décide de le faire exécuter. Il va être décapité sur la Via Flaminia le 14 février 269 et on raconte que ce jour-là, Valentin aurait remis à Julia, lui aurait fait remettre un papier en forme de cœur, enfin, je sais pas ce que c'était, ça devait être un papyrus avec écrit dessus « De ton Valentin ». À mon avis, on est dans la légende, mais vous comprenez d'où viennent tous ces cœurs qui fleurissent depuis le Moyen-Âge. Hein, cette fête de la Saint-Valentin, elle n'a fait que se répandre. Elle est devenue très importante essentiellement au tournant du XXe siècle. Hein, c'est à la Belle Époque qu'on s'est mis à envoyer les cartes carte postale, du Valentin à la Valentine, enfin, etc. Alors pour ce qui est du French Kiss, ben c'est un peu la même époque, si je puis dire. D'où ça vient? Il semblerait que ce soit les Américains qui ont lancé cette expression au moment de la Première Guerre mondiale, quand tous leurs soldats, vous savez, sont venus en France, et quand ils sont repartis en 1918-1919, quand ils sont rentrés en Amérique, ils ont dit que Paris était la ville de tous les plaisirs, ils ont appelé ce baiser sur la bouche, ils ont appelé ça le French Kiss. Ce qui est un peu étrange, c'est que nous, en France, on n'a pas d'expression, figurez-vous, pour désigner ce French Kiss. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'on dit, on emploie l'expression américaine. Il faudrait peut-être, à l'occasion de la prochaine Saint-Valentin, trouver un joli terme. Je dis bien un joli terme, parce qu'il y en a un qui s'apprête à entrer dans le dictionnaire, mais je le trouve pas très joli, moi.